Devant l'IBG, du côté du terrain de volley, quand vous avez fait du sport, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait deux arbres assez jolis, des magnolias en fait, pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu. Et en fait, il y a quelques années, quand nous avions encore quelqu'un qui s'occupait du jardin, cette personne était venue me voir en disant « mais ces deux arbres, ils sont vraiment misérables ». Ils n'ont plus de magnolia, justement, ils n'ont plus de fleurs, ils n'ont plus de fruits, enfin, c'est une catastrophe. Et il s'avère que cette année-là, dans la promo, hein, on utilise les dons des étudiants aussi, on essaie de faire fructifier leurs dons. Et donc, on lui dit, écoute, il s'appelait Luc, on lui dit, écoute, tu ne pourrais pas faire quelque chose. Il travaillait en plus comme pépiniériste. Alors, il avait une certaine expérience dans la taille des arbres. Et donc, moi, je voulais faire la surprise à la dame, je ne lui ai rien dit. Et j'ai dit à Luc, allez, vas-y, tu vas leur redonner une seconde jeunesse à ces arbres. Et le type, il s'y est mis. Et il a taillé, il a taillé, il a taillé. Et bien sûr, qui déboule dans mon bureau? La responsable du jardin. Catastrophe! Quelqu'un a massacré ces arbres. J'ai dit, keep cool, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il sait ce qu'il fait, mais moi-même, j'avais un gros doute. Je me suis dit, punaise, s'ils ne survivent pas. Et en fait, il a fallu 2 ans à ces arbres pour récupérer de la taille qu'ils avaient subie. Mais aujourd'hui, ils sont devenus plus grands que jamais. Je ne les ai jamais vus comme ça auparavant. Ils ont de magnifiques fleurs, ils portent du fruit. On ne peut pas les manger, hein, les fruits de magnolia. Je ne sais même pas si ce n'est pas toxique. Mais en tout cas, cette taille leur a, d'une certaine manière, sauvé la vie et a fait que... Aujourd'hui, ils sont magnifiques et que ce sont de très beaux arbres. Je vous invite à lire un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean, où il est aussi question de taille, mais pas de magnolia, mais de pied de vigne, de cèpe, de sarment. Et je vous invite à lire en Jean, chapitre 15, à partir du verset 1, et ce jusqu'au verset 16. Pour comprendre ce qui se passe, en tout cas pour situer le texte dans son cadre, imaginez-vous, nous sommes au mois d'avril, du début de notre ère, vers l'an 30, peut-être le 6 avril, si Jésus est mort en l'an 30, c'était le jeudi 6 avril de l'an 30, Jésus est en route vers le jardin de Gethsémané. Et il est en compagnie des 11 disciples. Judas vient de quitter la chambre haute pour livrer Jésus. Et dans quelques heures, Jésus va être arrêté. Et le lendemain, il sera crucifié. Et malgré cela, il se prend le temps de préparer ses disciples à son départ. Vous rendez compte, ils viennent de passer 3 années ensemble. Et là, Jésus va partir. Et il est en train de prononcer plusieurs discours pour les préparer aux heures sombres qui vont suivre. Il veut préparer ses disciples à la séparation qui approche. On peut dire que c'est le testament spirituel de Jésus. Un peu comme en 2 Timothée, vous avez le testament spirituel de l'apôtre Paul, ou en 2 Pierre, celui de Pierre. Et en fait, là, il vise à rassurer, à préparer les disciples à son départ. Et il va leur expliquer en particulier comment grandir dans la vie chrétienne. Comment la communauté chrétienne peut-elle grandir? Alors bien sûr, il faut que chaque individu mette du sien. Et voilà ce qu'il leur dit. Donc dites-vous bien, hein, ce sont les paroles de quelqu'un qui va mourir, qui va se faire arrêter, qui va se faire torturer. Et il se prend le temps, il s'occupe de ses disciples, alors qu'il aurait tant besoin qu'on s'occupe de lui. Mais non. Et voilà ce qu'il leur dit. Ils sont certainement en train de marcher, peut-être au milieu des vignes, ou peut-être qu'il y avait une représentation d'une vigne quelque part, ce qui était courant en Israël. Et voilà ce qu'il leur dit. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus va mourir et il utilise cette image de la vigne pour les préparer. En quoi le fait que Jésus dise « Je suis le vrai cep » est un encouragement, une préparation à ce qui va suivre et tout ce qu'il va dire sur ce plan de vigne, en quoi cela est-il un encouragement? La première chose que j'aimerais montrer, c'est que pour comprendre ce que Jésus est en train de dire, il faut élargir un peu le cadre. Quand il dit « Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron », en fait, il serait plus juste de traduire « Moi, je suis la vraie vigne ». Est vrai dans le sens de solide, sous-entendu qu'il y a une autre vigne qui, elle, déçoit, qui manque de consistance. Quand Jésus dit qu'il est le cep, en fait, il dit « je suis la vraie vigne », c'est-à-dire le plan de vigne entier, le cep et les sarments. Et chose intéressante, vous savez que ce n'est pas la première déclaration « je suis » de Jésus. Il a déjà dit « moi, je suis le pain de vie ». Et par là, il annonce sa divinité. Il utilise le nom de Dieu. Je suis. Moi, je suis la lumière du monde. Moi, je suis la porte. Moi, je suis le berger. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, la septième déclaration en je suis. Moi, je suis le vrai cep. Tout le plan de vigne. Mais en quoi ? C'est intéressant pour les disciples de savoir qu'il est le vrai cep. Déjà là, il y a une note polémique, il est question du vrai cep. Sous-entendu, s'il y a un vrai, il y a du faux, ou du mauvais, ou du moins bon. En fait, dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne représente souvent Israël. Par exemple, en Osée chapitre 10, Israël est semblable à une vigne qui dégénère et il ne produit du fruit que pour lui-même. Pas très sympa pour le peuple de Dieu. Ésaïe chapitre 5. Voilà ce qu'on peut lire dans ce qu'on appelle le champ de la vigne. Pourquoi, alors que j'attendais un beau et un bon raisin, n'en a-t-elle produit que du mauvais ? Et elle attire bien sûr cette vigne, le jugement de Dieu. Et il précise bien en Ésaïe 5 au verset 7, « Or c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel ». Israël était identifié à un plant de vigne. Et en Jérémie 2, « Moi, je t'avais planté comme un cep excellent, d'une variété sûre. Comment se fait-il donc que tu te sois changé en un plant dégénéré d'une vigne sauvage ?» Et on pourrait en rajouter des textes, en Ézéchiel, dans le livre des Psaumes. Et ce qui est assez surprenant, c'est que quasiment dans tous les passages où il est question de la vigne, dans l'Ancien Testament, il est question d'un jugement. Soit parce que la vigne s'est corrompue, ou parce qu'elle ne porte pas de bons fruits. Israël est comparé à une vigne qui ne produit pas de bons fruits. Et en fait, Jésus affirme ici qu'il est la vraie vigne, qui ne décevra pas, qui est solide, contrairement au peuple d'Israël qui a déçu Dieu dans ses attentes, Dieu le divin vigneron. Et donc pour un juif, d'entendre quelqu'un dire « moi je suis », déjà il déclare qu'il est Dieu, mais en même temps il déclare que lui va remplir les exigences, les attentes que Dieu avait envers Israël. Ce que Israël n'a pas pu faire dans l'Ancien Testament, Jésus va pouvoir le faire. Lui ne va pas succomber à la tentation, lui ne va pas pécher, lui ne va pas chuter, lui ne va pas décevoir. Jésus accomplit ce qu'Israël n'a pas pu accomplir. C'est lui le véritable Israël. Jésus remplace ici Israël en tant que véritable peuple de Dieu. Jésus est en train de se créer une nouvelle communauté. Et là, déjà, on a quelque chose d'intéressant. On nous dit souvent, mais dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de l'Église. Le mot n'est même pas mentionné. Mais au-delà du mot, il y a le concept. Et en Jean 10, il est question du troupeau. Ici, il est question de la vigne. Il est question du peuple de Dieu. Il est question de nous ici, dans ce chapitre 15. Il ne décevra pas Jésus, le divin vigneron, qui est le Père. Et il ajoute ensuite, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Qu'est-ce qu'on apprend là? Il existe deux types de sarments, deux types de relations au cep. Il existe deux types de sarments. Les sarments qui ne portent pas de fruits et qui sont retranchés de la vigne véritable par le vigneron qui n'est autre que Dieu. Et il dit, il ajoute au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Ensuite, il y a un deuxième type de sarment qui, lui, porte du fruit. Ils sont émondés, littéralement purifiés, c'est-à-dire taillés, pour qu'ils deviennent encore plus vigoureux et reçoivent plus de sève et portent encore de plus beaux fruits. Je n'ai pas passé en revue les différentes manières de comprendre ces sarments qui n'ont pas la vie et qui ne portent pas de fruits. Il est sûr que dans le contexte, il s'agit de sarments qui sont en Christ, qui sont coupés. Mais en fait, ces sarments, selon moi, représentent deux types de relations. Deux types de relations à Christ. Et je pense qu'il s'agit de faux disciples. À l'époque, on avait une pub, quand moi j'étais plus jeune, génération X, je pense, un truc comme ça. On avait une pub qui passait à la télé. Vous aviez un type qui se faisait arrêter par des gendarmes. Il sortait de la bagnole, les gendarmes se frottaient déjà les mains en pensant au PV qu'ils allaient pouvoir lui mettre parce que le type, il était en train de boire quelque chose. Et en fait, ils étaient convaincus qu'il buvait de l'alcool et en fait, il buvait du Canada Dry. Et là, le slogan, c'était « ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool ». Il y a des personnes qui ressemblent aux chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que vous êtes chrétien. Ce n'est pas parce que vous venez au groupe de jeunes que vous êtes chrétien. Ce n'est même pas parce que vous priez que vous êtes chrétien. Ce n'est même pas parce que vous venez à Welsh que vous êtes chrétien. Ce n'est même pas parce que vous étudiez la Bible que vous êtes chrétien. Ils ne portent pas de fruits, car ils n'ont pas de vie en eux. Et qu'est-ce qu'ils ont comme destin? Et c'est très fort. cette image. Ils sont retranchés, jetés au feu, hein, qui nous rappelle le jugement. Vous n'êtes pas tous purs. Vous n'êtes pas tous purs. Vous ne croyez pas que les disciples, ils avaient besoin de comprendre ce qui s'était passé avec Judas après coup ? Il a été pendant 3 ans avec nous. Il a entendu les mêmes enseignements que nous. Il a vu les mêmes miracles que nous. Mais il a trahi Jésus. Et vous allez voir sur votre parcours des personnes qui vont lâcher. Nous, on ne peut pas se prononcer si ce sont des sarments morts ou si ce sont des chutes ponctuelles et que les gens vont se relever. Mais sachez que le Seigneur nous prévient. Et ce n'est pas le seul endroit dans l'Écriture où il est question de ces personnes qui ressemblent à des disciples mais qui n'en sont pas. Extérieurement, ils peuvent avoir l'apparence des disciples. Ils peuvent même aller évangéliser, mais ils ne le sont pas. Le cœur n'y est pas. Ils n'ont pas de relation vivante avec Dieu. Judas. En Luc 8, pensez aux 4 terrains, c'est-à-dire à 4 façons de recevoir la parole de Dieu. Or, en Luc 8, on est dans le contexte du salut. Il y a 4 manières de recevoir la parole de Dieu. Et pourtant, sur les 4 manières de recevoir la parole, il n'y en a qu'une qui est bonne. Hein, sur le chemin où la semence est piétinée, sur le chemin rocailleux, dans les ronces. Et même, il y a des choses qui poussent. Hein. Donc l'image est troublante. Mais il n'y a que sur un terrain. Il n'y a qu'une manière de recevoir la parole qui permette de manifester qu'on a vraiment la vie. Ou un Jean, le même Jean écrit dans son épître, ils sont sortis de chez nous et ils ne sont pas des nôtres. Et parfois, ces personnes avaient des responsabilités. Ils enseignaient même dans l'église. Ils n'étaient même pas des disciples, ils n'étaient même pas des chrétiens. Et je crois qu'en Hébreux 6 aussi, il est question de ces personnes. Ces gens qui ressemblent à des chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens. C'est l'affaire de Dieu de s'occuper d'eux. Nous, on ne peut pas trancher. C'est Dieu qui tranche. Dieu le Père. Le divin vigneron s'occupe de notre croissance spirituelle. Il a le souci de nous voir porter du fruit. Et vous savez qu'en portant du fruit, nous glorifions Dieu. Jean-Yves nous a dit au début de ce Welsh, quel est le but d'un groupe de jeunes? Quel est le but de toute église? Quel est le but de tout chrétien? C'est glorifier Dieu. Et un des passages que tu as cité, c'est Jean 15, verset 8. D'autres auteurs l'expriment d'une autre manière, mais Jean dit, mais il faut porter du fruit, et en portant du fruit, on glorifie Dieu. Donc vous comprendrez qu'il est important de comprendre ce que ça veut dire concrètement porter du fruit. Et c'est quoi le fruit, puisque c'est tellement important, puisque c'est ainsi que l'on peut glorifier Dieu. Jésus n'est pas là pour inquiéter les disciples. Il est là juste pour leur expliquer déjà ce qui s'est passé avec Judas. Il leur dit au contraire au verset 3, « Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs. Vous inquiétez pas. Vous faites partie du peuple de Dieu. » Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le sujet principal ici, dans ces quelques versets, c'est l'intimité avec Jésus. Et ça nous est rappelé par ce verbe qui revient à 10 reprises. Demeurez, 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 demeurez attaché au cep, demeurez attaché au cep. Il est question ici de l'union intime du croyant avec Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'au moment où on se convertit, Paul nous le dit en Romains 6, nous sommes unis à Christ. On n'a pas besoin de travailler pour être unis plus à Christ. On est unis à Christ une fois pour toutes au moment où on se tourne vers lui. On accepte notre misère. On accepte qu'il a pris notre place dans le couloir de la mort. Jésus veut les rassurer ici. Il dit, vous êtes du bon côté. Vous êtes attachés au cep. C'est déjà fait. Vous êtes purs. Et il va maintenant mettre l'accent sur ces sarments qui portent du fruit. Il ne cherche pas à les inquiéter. Comment est-ce que nous sommes émondés, purifiés? Ben déjà par l'action de la parole. C'est pour ça que Jésus peut dire à ses disciples, vous êtes purifiés, parce qu'ils ont reçu la parole. C'est de la bonne terre. Ils ont été émondés par les paroles de Jésus. Ils ont été purifiés en vue de porter encore plus de fruits. Et nous sommes aussi émondés, purifiés, et les disciples vont l'apprendre dans les heures qui vont suivre et dans le restant des années de la vie que Dieu leur accordera encore sur cette terre par la mise à l'épreuve de leur foi. Un chrétien passe par le creuset de l'épreuve. C'est un des moyens privilégiés de Dieu pour nous faire grandir et nous faire porter plus de fruits. Et parfois, quand on est émondé, c'est pas beau à voir. Je me souviens de la tête de ces magnolias, je me suis dit, est-ce qu'ils vont récupérer un jour? Et parfois, quand on voit notre vie, quand Dieu nous émonde, c'est pas beau à voir. Mais Dieu, il peut en faire quelque chose de beau. Il n'est pas là pour nous casser. Il veut nous rendre encore plus forts, plus vigoureux. Il veut nous voir porter encore plus de fruits. Et pour cela, il utilise l'épreuve. Ne soyons pas surpris par l'épreuve, c'est naturel. C'est la marque de l'œuvre du vigneron dans notre vie. Quelle est notre raison d'être en tant que disciples du Christ? La réponse est claire au verset 8. Nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Et pourquoi porter du fruit? Parce que ainsi la gloire de Dieu apparaîtra aux yeux de tous. En portant du fruit, nous révélons qui est Jésus et qui est le Père. Alors comment porter du fruit? Puisque c'est ainsi que Dieu est glorifié, demeurer, hein. Et la réponse, demeurer, fermement attaché. Il est question ici d'union intime continuelle avec le Seigneur. C'est ainsi que l'on peut porter du fruit. Il faut qu'on dépende de lui. La sève est dans le cep. Et sans cette union, nous ne pouvons pas porter de fruits. Et n'oubliez pas que Jésus a dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas se lever le matin et dire, aujourd'hui, j'ai porté du fruit. Enfin, si, vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez pas le produire. Vous n'avez pas les ressources en vous-même. On ne pourra jamais, par nos efforts, produire le fruit. On pourra l'imiter. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y a des faux disciples. On peut prier, même si on n'est pas chrétien. On peut chanter des chants, même si on n'est pas chrétien. Mais ça ne suffit pas. On peut même être sincère dans sa démarche, mais ça ne suffit pas. Comment demeurer en Christ? Comment grandir dans ma vie chrétienne? C'est par l'obéissance à Jésus. Par l'obéissance au commandement. Par l'obéissance aux paroles de Jésus. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus nous donne comme modèle d'obéissance la même obéissance qu'il a lui au Père. Jésus est totalement soumis au Père. Vous ne verrez jamais Jésus faire quelque chose qui soit en dehors de la volonté de son Père. Il consulte constamment son Père. Il est en communion parfaite avec lui. Et c'est ce modèle qui devrait nous inspirer. C'est le modèle suprême de l'obéissance que nous lui devons en tant que disciples. En fait, la relation qui existe entre Jésus et le Père est le modèle de la relation qui devrait exister entre le Fils et nous, ses disciples. L'obéissance au commandement est la condition de la présence constante du croyant dans l'amour de Jésus. Verset 10. Nous avons « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » De la même manière que Jésus se soumet à la volonté du Père, il voudrait que nous soumettions à sa volonté, qui n'est d'ailleurs pas différente de celle du Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire que notre amour pour Jésus devrait être la source de notre obéissance. Tu obéis parce que tu aimes. Tu n'obéis pas parce que tu dois. Ça, le faux disciple peut le faire, et même un vrai. Mais là, il se trompe. Là, on essaie de produire par nos propres efforts du fruit. Ce qui devrait nous motiver, c'est l'amour, la reconnaissance pour ce que Jésus a déjà fait, parce qu'on est déjà attaché au cep, on obéit. Pas pour être plus attaché. On ne peut pas être plus attaché au cep qu'au moment où on est rattaché par Jésus à sa personne. L'amour pour Jésus devrait être la source de notre obéissance. Pourquoi je fais la vaisselle? Pourquoi je me soumets? Pourquoi je m'investis dans le groupe de jeunes? Parce que j'aime Jésus. Et pourquoi je l'aime? Parce qu'il m'a aimé le premier. Et ceux qui lui obéissent connaîtront la joie complète. Pas un sentiment vague d'autosatisfaction. La même joie que Jésus avait du fait de se soumettre à la volonté de son Père. Cette joie, elle est aussi pour nous. C'est la vraie joie qui ne dépend pas des circonstances et qui consiste à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Par l'obéissance au commandement d'amour. Et au verset 13 et 14, il est question d'amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il y a deux personnages dans l'Ancien Testament qui sont appelés amis de Dieu, Abraham et Moïse. Par contre, jamais Dieu n'est appelé l'ami de qui que ce soit dans la Bible, parce qu'il ne peut pas y avoir de réciprocité. L'amitié est ici définie de la manière suivante. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dans ce sens-là, Dieu ne peut pas être notre ami puisqu'il ne va pas faire ce que nous lui commandons. Il n'y a pas de réciprocité dans cette amitié. Nous serons appelés amis de Dieu si nous lui obéissons. Et par exemple, dans l'épître de Jacques, il est dit que Abraham a été appelé l'ami de Dieu lorsqu'il a été disposé à sacrifier son fils Isaac en Genèse 22. Il a manifesté son obéissance, sa soumission à Dieu. Et au verset 7, nous trouvons une belle promesse. Une promesse qui concerne les chrétiens obéissants, les vrais disciples, dont font partie les 11. Un croyant vraiment obéissant se montre efficace par sa prière, puisque tout ce qu'il demande est conforme à la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de demander juste ce qui nous passe par la tête, ou ce dont on aurait absolument besoin, pensons-nous. Parce que ce qu'il va demander va être conforme à la volonté de Dieu. Tout comme Jésus n'a jamais rien fait, rien demandé qui ne soit pas dans la volonté du Père. Et dans ce sens, ça nous sera accordé. Et cette promesse est reprise aussi au verset 16. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Quelle est la nature du fruit? En fait, la gloire du Père apparaît aux yeux de tous par le fait de porter beaucoup de fruits. Le fruit rend le Père visible. En fait, quand nous portons du fruit, nous révélons Dieu. Porter du fruit, c'est révéler Dieu. Et qu'est-ce que le fruit? Le fruit, c'est le rayonnement de l'amour et de la foi des disciples dans le monde. Le fruit, c'est le rayonnement de l'amour et de la foi des disciples dans le monde. Ça, c'est le fruit. Il était déjà anticipé en Jean 13 quand il dit ceci, Jésus, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Manifestation du fruit. Jean 17, verset 23, « Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Dieu aime, nous aime, comme Dieu a aimé le Fils. Voilà la nature du fruit. En fait, le fruit est un signe visible et nécessaire d'un vrai disciple. Et ce fruit, il faut bien se le graver dans notre tête. On ne peut pas le produire. C'est Dieu qui le produit en nous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il faut savoir que l'absence de fruits dans notre vie prive Dieu de la gloire qui lui revient à juste titre. Maintenant, il faut terminer par la nature de l'intimité entre Jésus et ses disciples. Parce que vous savez que cette image de la vigne, elle a ses limites. À partir de la vigne, Jésus a pu expliquer beaucoup de choses à ses disciples. Mais il y a une chose que cette image n'explique pas et qu'on ne retrouve pas par analogie dans un plant de vigne, c'est l'amour. Et pour parler de l'amour, parce que dans les 8 premiers versets, Jésus présente l'image de la vigne. Et dans les versets 9 à 16, il l'explique de façon plus détaillée. Et il nous dit au verset 9 que comme lui, Jésus, est l'objet de l'amour du Père, ainsi nous, les disciples, nous sommes l'objet de l'amour de Jésus. Ça veut dire que Jésus t'aime comme lui-même est aimé du Père. Jésus t'aime comme lui-même est aimé du Père. C'est fou. C'est le même amour. Et il a prouvé qu'il nous aimait. Ce n'était pas un vague sentiment ou que des mots. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'intimité entre le croyant et Jésus-Christ est une intimité qui n'est pas individualiste, elle est partagée avec d'autres croyants. Il ne s'agit pas d'un simple épanouissement personnel, c'est un amour pour l'Église, pour le groupe de jeunes. C'est un amour communautaire. Il est question ici du peuple de Dieu. Le standard, le modèle de notre amour pour les frères et sœurs dans la foi est l'amour de Jésus pour nous. L'ami, dont il est question au verset 15, fait ce que Jésus commande. Et c'est vrai que Jacques, Pierre, Paul se présentent comme des esclaves de Jésus-Christ. Mais ici, Jean nous dit, mais vous êtes plus que de simples esclaves. Parce que vous savez en vue de quoi les choses se passent. Je vous ai levé un petit coin du voile. Moi, en fait, si je vous fais passer par des moments difficiles, si je vous fais passer par des moments de souffrance, si je vous ai révélé tellement de paroles concernant Dieu, concernant sa propre personne, c'est pour vous préparer à un avenir plein d'espérance. Vous avez accès à la révélation. Vous savez en vue de quoi vous êtes émondés. Vous savez pourquoi vous devez porter du fruit. Nous savons pourquoi nous obéissons. Parce que nous connaissons une partie du plan de Dieu. Et nous savons que cette vie n'est qu'une étape. Et un jour, nous serons vraiment dans la présence de Dieu. Et nous porterons parfaitement du fruit. Et ce qui est extraordinaire, il termine ce passage en disant que notre intimité est basée sur le choix de Dieu. Si je peux avoir cette relation avec Jésus, c'est parce qu'il m'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi pour avoir cette relation privilégiée avec lui et pour porter du fruit. Il nous faut conclure. Comment grandir spirituellement ? Jésus est la vraie vigne. Lui ne te décevra pas. Tu peux suivre plein de personnes dans ce monde qui te décevront, mais Jésus ne te décevra pas. C'est lui qui est au cœur de toutes les communautés chrétiennes du monde. C'est lui qui ne décevra pas, lui seul qui ne décevra pas le divin vigneron qui est Dieu. Nous sommes appelés tous à être ses disciples. Ça veut dire qu'on a une certaine responsabilité. Le vrai bonheur, la vraie joie découle du fait de porter du fruit pour la gloire de Dieu par l'obéissance aux paroles du Seigneur. Ça, c'est un résumé de ce que Jésus dit ici. Le vrai bonheur, la vraie joie découle du fait de porter du fruit. pour la gloire de Dieu, par l'obéissance à la parole du Seigneur. Ça veut dire qu'au travers de nos paroles, de nos actes d'obéissance, qui sont motivés par l'amour de Dieu et de mon prochain, le Fils continue d'une certaine manière de se révéler au monde et ainsi à glorifier Dieu. Quand j'obéis au Seigneur, en comptant sur lui, en revenant au pied de la croix, je peux porter du fruit et je continue à révéler au monde quelque chose du Père et du Fils. Amen. J'ai prié. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu nous encourages ici à compter sur toi pour porter du fruit, car c'est ainsi que nous te rendrons gloire, que nous te donnerons du poids dans notre vie. Seigneur, nous aimerions tant que tu pèses plus dans ma vie et que de plus en plus les autres choses qui remplissent mon univers quotidien puissent pâlir à la lumière de ta gloire. Seigneur, aide-moi à prendre ces paroles au sérieux. Tu vois combien il m'est difficile d'aimer mon prochain. Tu vois combien je peux être égoïste et je voudrais te demander que tu me renouvelles de jour en jour, que tu m'aides à être cohérent dans ma foi. Tu vois combien le chemin est encore grand à parcourir, mais je ne veux pas me désespérer parce que je sais que toi tu es à l'œuvre et c'est toi qui le feras. Merci pour ta parole qui est certaine. Seigneur, encourage-nous à être motivés par le fait de porter du fruit et que nous ayons ce même désir pour ceux que tu nous as confiés dans nos groupes de jeunes. Amen. Je vous invite maintenant à vous retrouver dans le cadre de vos 8 groupes et à prolonger ce moment par un temps de méditation sur ce texte. Donc les responsables de groupe ont les questions et vous allez pouvoir approfondir ce que nous avons vu.